2 avril. Comprendre le désir. Nous devons comprendre le désir, mais il est très difficile de comprendre quelque chose d'aussi essentiel, d'aussi exigeant, d'aussi urgent, car dans l'accomplissement même du désir naît la passion, avec le plaisir et la douleur qui y sont associés. Et si l'on veut pouvoir comprendre le désir, il faut, bien sûr, qu'aucun choix n'intervienne. On ne peut pas juger le désir comme étant bon ou mauvais, noble ou ignoble, ni même dire « je vais garder ce désir et rejeter celui-là ». Il faut écarter tout cela pour pouvoir découvrir la vérité du désir, sa beauté, sa laideur, ou toute forme que puisse avoir le désir. Avril. Le désir doit être compris. Poursuivons notre examen du désir. Nous connaissons bien entendu les contradictions du désir, torturées, tiraillées entre des directions divergentes. Nous connaissons la douleur, les remous, l'angoisse du désir et les tentatives pour le maîtriser, le contrôler. Et dans cet éternel combat qui nous oppose à lui, nous le déformons, le distordons jusqu'à le rendre informe et méconnaissable. Mais il est là, sans cesse aux aguets, à l'affût, toujours aussi pressant. Vous avez beau faire, le sublimer, le fuir, le nier ou l'accepter, et lui laisser libre cours, il est toujours là. Et nous savons combien les maîtres, religieux ou autres, nous ont exhortés à être sans désir, à cultiver le détachement, à nous libérer du désir, ce qui est totalement absurde, car le désir doit être compris et non anéanti. Si vous anéantissez le désir, vous risquez d'anéantir la vie elle-même. Si vous pervertissez le désir, si vous le modelez, le contrôlez, le dominez, le refoulez, peut-être êtes-vous en train de détruire quelque chose d'extraordinairement beau. Avril. La qualité du désir. Que se passe-t-il si vous ne condamnez pas le désir, ne le jugez ni bon ni mauvais, mais en êtes simplement conscient? Je me demande si vous savez ce que signifie avoir conscience de quelque chose. Nous n'avons généralement pas conscience des choses parce que nous avons tellement l'habitude de condamner, de juger, d'évaluer, d'identifier, de choisir. Le choix empêche évidemment de prendre conscience, parce que le choix est toujours effectué en raison d'un conflit. Être pleinement conscient lorsqu'on pénètre dans une pièce, voir tout le mobilier, remarquer le tapis ou en noter l'absence, et ainsi de suite, ne rien faire d'autre que voir les choses, en avoir conscience sans aucune notion de jugement, c'est très difficile. Avez-vous déjà essayé de regarder une personne, une fleur, une idée, une émotion, sans faire intervenir le moindre choix, le moindre jugement? Et si l'on agit de même face au désir, si on vit avec lui sans le nier et sans dire « que vais-je faire de ce désir? Il est si laid, si sournois, si violent », sans lui donner de nom ni lui associer un symbole, sans le camoufler sous un mot, alors le désir est-il encore cause d'agitation? Est-il alors une chose à éliminer, à détruire? Nous voulons le détruire parce que chaque désir s'oppose à un autre et il s'entre-déchire, engendrant conflits, souffrances et contradictions. Et l'on voit comment chacun s'efforce d'échapper à ce perpétuel conflit. Est-il donc possible d'avoir conscience de la totalité du désir? La totalité, telle que je l'entends, ne désigne pas un désir unique ou des désirs multiples, mais l'essence même du désir global. 5 avril. Pourquoi le plaisir nous serait-il refusé? Vous voyez un magnifique coucher de soleil, un bel arbre, le mouvement et les larges courbes d'un fleuve, un beau visage, et vous prenez grand plaisir à le regarder. Quel mal y a-t-il à cela? Il me semble que la confusion et la souffrance commencent lorsque ce visage, ce fleuve, ce nuage, cette montagne deviennent un souvenir. Et ce souvenir réclame une prolongation du plaisir. Nous voulons que ces choses-là se répètent. Nous savons tous cela. J'ai éprouvé un certain plaisir ou quelque chose vous a apporté un certain bonheur et nous voulons que cela recommence. Que le plaisir soit d'ordre sexuel, artistique, intellectuel ou de nature quelque peu différente, nous voulons qu'il se répète. Et je crois que c'est là que le plaisir commence à obscurcir l'esprit et qu'il crée des valeurs qui sont fausses, hors de toute réalité. L'important, c'est de comprendre le plaisir et non d'essayer de s'en débarrasser. C'est trop stupide. Personne ne peut se débarrasser du plaisir. Mais il est essentiel d'en comprendre la nature et les structures, parce que si la vie se résume au plaisir, et si c'est cela que nous voulons, le plaisir s'accompagne aussi de souffrances, de confusions, d'illusions et des fausses valeurs que nous créons. Et il n'y a donc pas la moindre clarté. Six avril. Une réaction saine et normale. Je dois découvrir pourquoi le désir jouit d'un si grand pouvoir dans ma vie. Le désir, c'est peut-être bien ou peut-être pas. Il faut que je le sache. J'ai conscience de cela. Le désir se manifeste, c'est une réaction saine, normale. Sans cela, je serais mort. Je vois quelque chose de beau et je dis « Bon sang, j'ai envie de ça !» Sans le désir, je serais mort. Mais la recherche constante de sa satisfaction est cause de douleur. C'est tout mon problème. Il y a le plaisir, mais aussi la douleur. Je vois une belle femme, belle mais vraiment belle. Ce serait absurde de dire le contraire. C'est un fait. Mais qu'est-ce qui permet au plaisir de se prolonger? Évidemment, c'est le fait d'y penser. C'est la pensée. J'y pense. Il ne s'agit plus d'une relation directe avec l'objet. Mais à présent, la pensée amplifie ce désir en y songeant, en évoquant des images, des idées. La pensée entre en jeu et vous souffle. Mais oui, tu en as impérativement besoin. C'est un accomplissement. C'est important. Ce n'est pas important. C'est vital pour ton existence. Ce n'est pas vital pour ton existence. Mais je peux regarder l'objet du désir, éprouver le désir et m'en tenir là, sans aucune interférence de la pensée. Mourir à toutes ces petites choses. Avez-vous déjà essayé de mourir à un plaisir, délibérément et pas sous la contrainte? En général, on ne choisit pas de mourir. La mort vient et vous emporte. Ce n'est pas un acte volontaire, sauf en cas de suicide. Mais avez-vous déjà essayé de mourir volontairement, sans effort? Avez-vous éprouvé ce sentiment d'abandon du plaisir? Évidemment pas. À l'heure actuelle de vos idéaux, vos plaisirs, vos ambitions sont les seules choses à avoir une prétendue signification. La vie, c'est l'existence vécue, l'abondance, la plénitude, l'abandon, pas la perception de la signification du « je ». Ce n'est qu'un jeu intellectuel. Si vous faites l'expérience de la mort ou petites choses de la vie, c'est déjà bien. Essayez simplement de mourir au petit plaisir, avec facilité, avec aisance, avec le sourire. Cela suffit déjà car vous verrez alors que votre esprit est capable de mourir à des quantités de choses, de mourir à tous les souvenirs. Des machines, Les ordinateurs remplissent actuellement les fonctions de la mémoire, mais l'esprit humain est bien plus qu'un simple mécanisme routinier d'association et de mémoire. L'esprit ne peut pourtant pas devenir cette autre chose s'il ne meurt à tout ce qu'il connaît. Donc, pour voir la pleine vérité de tout cela, il faut absolument avoir un esprit jeune. Un esprit qui ne fonctionne pas simplement dans le champ du temps. L'esprit qui est jeune meurt à toute chose. Êtes-vous capable de voir cette vérité, de la percevoir instantanément? Peut-être ne saisirez-vous pas entièrement la portée extraordinaire de tout cela, son immense subtilité, la beauté de cette mort, sa richesse. Mais par le simple fait d'écouter, ces paroles seront comme une semence qui va prendre racine, et ce, non seulement au niveau superficiel de la conscience claire, mais jusque dans les couches profondes de l'inconscient. La sexualité. La sexualité pose problème, car c'est, selon toute vraisemblance, dans l'acte sexuel que le moi est le plus totalement absent. Dans ces moments-là, on est heureux, parce que la conscience de soi, la conscience du moi, cesse d'exister. Et le désir de renouveler cette expérience de renonciation au moi qui apporte le bonheur parfait, sans passé ni futur, l'exigence de ce bonheur complet qu'apporte la fusion, l'intégration totale, font que, naturellement, l'acte sexuel prend une importance extrême. N'est-ce pas exact? Parce que c'est quelque chose qui me procure une joie sans mélange, l'oubli total de moi, j'en redemande encore et encore. Pourquoi est-ce que j'en redemande? Parce que partout ailleurs, je suis en conflit. À tous les niveaux divers de l'existence, l'ego ne cesse de se renforcer. Sur le plan économique, social, religieux, tout concourt à cet épaississement constant de la conscience de soi qu'est le conflit. En définitive, on a conscience de soi-même que lorsqu'il y a conflit. La conscience de soi est par sa nature même le corollaire du conflit. Le problème, assurément, ce n'est pas le sexe, mais c'est de savoir comment se libérer du moi. Vous avez goûté cette saveur d'être, cet état dans lequel le moi n'est plus, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes, ou l'espace d'une journée, peu importe. Mais là où est le moi, il y a conflit, il y a souffrance, il y a lutte. D'où ce désir perpétuel de renouveler sans cesse cet état où l'on est libéré du moi.